Imaginons, frères et sœurs, qu'après avoir été pieusement à la messe d'un mariage, invité par l'époux, on se dirige vers le lieu de la réception qui se passe dans un somptueux château, au milieu d'un parc magnifique, avec des pelouses superbes, des arbres centenaires, des roseraies qui exhalent un parfum exquis. On est au mois de novembre, il fait déjà nuit, on sort de la voiture et au fur et à mesure qu'on s'approche du château, tous nos sens sont touchés. À travers les fenêtres, on découvre des salons magnifiquement décorés, scintillant d'une lumière chatoyante. Une lumière divine, entremêlée d'éclats de rire délicieux égaye déjà les ténèbres du jardin. Et la senteur exquise de mets succulents et moustillant nos narines nous met irrésistiblement l'eau à la bouche. Et pour couronner le tout, il y a surtout cette joie grandissante de rencontrer l'époux, qui est le plus beau des enfants des hommes. Bref, on n'a qu'une envie, c'est d'entrer dans ce lieu paradisiaque au plus vite. On court encore quelques marches pour atteindre le perron illuminé. Et là, catastrophe. La lumière soudaine nous révèle la laideur répugnante de nos vêtements, comme si l'impureté de nos âmes avait déteint sur eux un sentiment infini de honte et d'indignité nous envahit. Il devient ainsi évident qu'attifés de cette manière, il nous est impossible d'entrer dans la salle des noces et surtout de paraître devant l'époux. Ce serait faire tâche, ne pas pouvoir pleinement participer à la fête. L'époux, celui qu'avant tout nous voulons voir, nous resterait invisible parce que nous ne lui serions pas semblables, comme un soleil aveuglant. Imaginez, frères et sœurs, l'immensité du supplice que de ne pas savoir quand l'accès à cette fête paradisiaque infiniment désirée sera possible, car il nous est impossible de purifier notre âme. Le temps de notre vie terrestre étant passé, nous n'avons pas d'autre moyen que de nous en remettre à la miséricorde divine et à la prière purificatrice de l'Église militante de la terre, c'est-à-dire à la prière de tous ceux qui sur terre veulent bien prier pour nous. Vous l'avez compris, frères et sœurs, cette histoire cherche à illustrer la souffrance des âmes du purgatoire qui attendent patiemment mais douloureusement notre prière pour être introduite par Dieu dans le degré de gloire dont de toute éternité il veut les combler. Soyons bien clairs, il ne s'agit pas de l'enfer qui est un état définitif de rejet de Dieu dont on ne peut sortir. Rappelez-vous la parabole du bon Lazare ou l'homélie du frère Louis d'il y a quelques semaines. Il s'agit du purgatoire, qui est un état transitoire et qui, selon le catéchisme de l'Église catholique, est la purification finale des élus, nécessaire pour qu'ils puissent voir Dieu sans aucune entrave et entrer ainsi pleinement dans la béatitude éternelle. Frères et sœurs, cela va presque sans dire. Il est donc d'une grande charité que de prier pour les âmes du purgatoire, de prier pour tous les défunts que l'on connaît, et en particulier ceux de nos familles, à qui nous devons la vie. Il est donc très bon d'en faire mémoire aujourd'hui et comble de la charité de demander de faire célébrer des messes à leur intention. C'est sans nul doute le plus grand cadeau que nous puissions leur faire. Et vous n'imaginez pas à quel point ils nous le rendent si nous le faisons. Très bien, me direz-vous, mais il y en a peut-être parmi vous qui trouvent cet enseignement un peu amer, voire même intenable ou suranné, digne d'un 19e siècle janséniste, empli d'une conception de Dieu sévère et justicier. En effet, ne nous rabâche-t-on pas les oreilles que Jésus nous sauve ? Ne nous sauve-t-il pas entièrement ? Pourquoi avoir encore besoin d'une purification ? La confession ne nous donne-t-elle pas le pardon de nos péchés ? Et Jésus ne promet-il pas le paradis au bon larron dès le soir même de sa mort ? Oui, frères et sœurs, mais pour comprendre que le purgatoire est une possibilité on ne peut plus réelle, il faut saisir toutes les conséquences du péché. Il y en a deux. Premièrement, la peine éternelle qui nous coupe définitivement de Dieu et dont le sacrement de réconciliation nous sauve en vertu de la mort de Jésus sur la croix et de sa résurrection. Et deuxièmement, et c'est là ce à quoi le purgatoire correspond, il y a aussi la peine temporelle du péché qui résulte du désordre que nous introduisons dans le monde lorsque nous péchons et qu'en justice, il nous faut réparer. Prenons un exemple. Imaginons que je vole des framboises dans le jardin de mon voisin et que je les mange. Si je m'en repens et que je demande pardon à Dieu et à mon voisin, je n'en suis pas quitte pour autant. Il demeure nécessaire qu'autant que possible, je répare le mal que j'ai pu faire en rachetant, par exemple, des framboises à mon voisin et en purifiant mon âme par un acte de pénitence. Car en consentant à un plaisir désordonné, j'ai faussé mon âme, lui faisant poser un acte non conforme à sa dignité. Consentir à un plaisir désordonné, subir volontairement une chose pénible, c'est comme une barre de fer que l'on a tordue et que l'on doit tordre dans l'autre sens. Voilà pourquoi l'enseignement de l'Église à propos du purgatoire n'est en rien suranné. Dieu veut vraiment nous introduire dans la gloire, dans sa gloire, et pour ce faire, il n'a pas d'autre moyen que de nous rendre aussi purs que lui, en respectant notre volonté. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Nous le verrons parce que nous lui serons semblables. Mais pour faire droit à ceux qui y voient la trace d'un Dieu sévère, janséniste, il faut ajouter que si le purgatoire est une réelle possibilité, ce n'est pas pour autant que Dieu veut que nous fassions du purgatoire, et il veut même, si j'ose dire, que nous n'en fassions pas. Et il nous en a donné les moyens. Car, comme il est dit dans la première lettre de saint Pierre, la charité couvre une multitude de péchés. Et c'est d'ailleurs le sens de l'indulgence plénière que nous pouvons recevoir en cette année jubilaire décrétée par le pape François. Mais à la rigueur, il n'est nul besoin d'une indulgence plénière, car se convertir et aimer autant qu'il nous est possible de le faire à chaque seconde de notre vie est une manière de réparer nos torts et de nous préparer à entrer au ciel sans même avoir besoin d'une purification finale. Prenons l'exemple de saint Paul, qui, selon ses propres dires, avait du sang sur les mains. Pour sa peine, Jésus n'a pas exigé qu'il fasse 20 ans de purgatoire. Il lui a simplement demandé d'être son apôtre, autrement dit d'aimer, en étant à son service, jusqu'à en donner sa propre vie. Et pour en venir à un exemple plus récent par lequel je terminerai, il y a aussi l'assurance de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, toujours elle, de ne pas faire du purgatoire. Ne nous méprenons pas, elle avait parfaitement conscience de l'imperfection de sa vie. « Toutes nos justices sont des tâches à vos yeux, dit-elle à Jésus. Toutes nos justices sont des tâches à vos yeux, dit-elle à Jésus dans une de ses prières. » Et c'est pourquoi, dans son acte d'offrande à l'amour miséricordieux, elle demande à Dieu de ne pas être jugée sur ses bonnes actions. Elle veut paraître devant lui les mains vides. En ne s'appuyant sur aucun de ses mérites et en ne comptant que sur la miséricorde du bon Dieu pour aller au ciel et pour y aller tout droit. Un jour, une de ses sœurs carmélites lui fit remarquer qu'elle était bien présomptueuse de prétendre ainsi ne pas faire du purgatoire. Thérèse lui répliqua, « Ma sœur, vous voulez de la justice de Dieu, vous aurez de la justice de Dieu. L'âme reçoit exactement de Dieu ce qu'elle attend de Dieu. » C'est pourquoi, frères et sœurs, en priant aujourd'hui pour nos défunts, rien ne peut faire davantage plaisir à Dieu que de désirer d'aller directement au ciel, étant certain de sa miséricorde infinie. Autrement dit, rien ne peut faire davantage plaisir à Dieu que de désirer que nous soyons saints. Soyez saints, car moi, je suis saint. Et donc d'en prendre les moyens, en aimant autant qu'il nous est possible, à chaque seconde de notre vie. Alors, quand viendra le moment de la rencontre avec l'époux à notre mort, soyons certains qu'il mettra la ceinture autour des reins et nous fera prendre place à table et nous passera et passera pour nous servir. Dieu soit béni. Amen.